psychiatrique. À sa sortie, il a brûlé tous ses livres et depuis, il brûle tout. Saleh Bakri clôt d'ailleurs l'histoire en brûlant aussi un symbole. Mais je n'en dirai pas plus, sinon que le dénouement est bouleversant et que l'humour est aussi présent dans tout le film. Alam, le drapeau de Firas Khoury au cinéma le 30 août, à ne pas manquer. Numéro 10, un film d'Alex von Warmerdam. Entre cinéma et théâtre, entre drame, adultère, jalousie et science-fiction mêlée d'ésotérisme, on est facilement emporté dans une histoire pour le moins surprenante. Cela commence par les répétitions d'une pièce où les rôles sont distribués mais changent tout le temps. D'abord parce qu'un comédien n'arrive pas à mémoriser son texte, puis par la découverte de l'infidélité de la femme du metteur en scène et de sa liaison avec le comédien principal. Du coup, le texte fluctue, les rôles sont inversés, les comédiens et les comédiennes perdent leurs repères et le metteur en scène ne sait plus très bien lui-même où il en est, perdu entre la préparation de la pièce et sa vie conjugale. Chamboulé. C'est pas une pièce, c'est un collage, hurle-t-il à son équipe qui aimerait suivre et capter ne serait-ce qu'un semblant de logique. Mais de logique, il n'y en a pas. Au théâtre, comme dans l'histoire de l'amant, Günther, qui croisant un homme sur un pont se voit abordé par l'inconnu qui lui chuchote à l'oreille un mot incompréhensible. Un code, un message, Günther n'y comprend rien. Alors que sa fille le filme secrètement et que sa maîtresse le laisse choir pour retrouver son mari et metteur en scène. L'homme mystérieux, croisé sur le pont, annonce le point de rupture avec le théâtre et l'histoire amoureuse. Tout bascule alors dans le fantastique, avec une chapelle construite en pleine forêt. Mais est-ce une construction ou le passage qui permet de rejoindre un autre monde ? Numéro 10 est un film surprenant dont l'auteur se réclame du surréalisme qui a infusé, selon ses termes, tout son travail avec l'humour noir en plus. Numéro 10 d'Alex von Warmerdam est en salle le 30 août. La semaine prochaine, l'hypothèse du quai de Conti de Philippe Sisban, publié aux éditions Infim et Sement. C'est un entretien avec Philippe Sisban. Cinéma, Le Gang des Bois du Temple de Rabah Hammer Zameish, Désert de Faouzi Ben Saïdi, enfin un film d'animation japonais, Le Château solitaire dans le miroir de Keiichi Hara. Trois films qui sortent le 6 septembre. Très très bonne semaine et bien sûr, tenez bon.
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Nolé, oblé, whisky, cartoula, mauditoris, émeré.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunia sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte coûte
20 euros.
Quam emere potes in libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quentesima quadragesima quinta via Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues proquibus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alis queremus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Et voici un palindrome parmi ceux que je préfère, un palindrome pacifiste et anti-alcoolique, très court. Non à ce canon. Non à ce canon.
Et voilà, ouverture comme à l'accoutumée, enfin comme à l'accoutumée, on a eu quelques petites semaines d'absence, avec un palindrome de Gérard Durand, le gérant du Rare. Ces palindromes vous ont peut-être manqué pendant un mois. Nous, c'est Gérard qui nous manque. Pendant un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben si, une bonne nouvelle quand même pour moi. Prigogine redevient le nom d'un prix Nobel de chimie. Il y a Prigogine et l'autre ordure disparaît. Marlène Schiappa a disparu de l'actualité, ça c'est une bonne nouvelle. On a découvert aussi que le Niger c'est quand même 22 millions d'habitants et que le plus grand pays d'Afrique, le Nigeria, qui est juste à côté, c'est l'équivalent de la France, l'Allemagne et l'Espagne réunies. Ça compte quand même l'Afrique. Et puis, petite et grande disparition, on nous a cité Django Edwards qui est mort ces dernières semaines, Jane Birkin avec ce superbe dessin dans le canard enchaîné avec un type qui demande « Excusez-moi, où elle est l'enterrement de Jane Birkin ?» J'ai trouvé ça absolument génial, effectivement. Oh, et puis toute ma jeunesse aussi, la disparition, tous les slows de mon enfance, l'été indien, voici les clés, souviens-toi, il était une fois nous deux, Kennedy Airport et les oiseaux de Thaïlande, la disparition de Toto Cutugno. Et puis une disparition passée inaperçue aussi dans les médias, à laquelle nous rendrons hommage tout à l'heure. Mais sinon, allez, je vous offre aussi quelques petits... Je me souviens. Ah, je me souviens de Jean-Marie Prollier dans le rôle de Sol Carlus dans la pub pour Terra de Johnson. Et aussi de la parodie des Nuls où un Sol Carlus sadomasochiste, joué par Dominique Farrugia, refuse de faire briller les sols afin de se faire fouetter et sodomiser. Je me souviens d'un docteur, quand sa secrétaire vous fixait rendez-vous à 11h, vous passiez la visite à 11h et non 11h15 ou... Non, je plaisante, ça n'existe pas. Je me souviens de Delaney's Melody, la trompette de Jean-Claude Borelli. Je l'avais enregistré depuis le hit parade où il était en tête sur magnétophone à cassette. Mais j'avais oublié que c'était aussi la bande originale de Un linceul n'a pas de poche de Jean-Pierre Mocky, d'après Horace McCoy. Je me souviens que Frédéric s'était acheté une belle maison pour la retraite, dans un village du Perche, qu'il y avait envie d'emménager, mais qu'il l'avait revendue un an plus tard pour en acheter une plus petite, dans le même hameau. Rachel a d'ailleurs fait le même coup en Bretagne. Je me souviens de « Quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, Ronsard me célébrait au temps où j'étais belle, et j'ai tout oublié jusqu'à cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie. » Je me souviens que quand il y avait un piano ouvert chez des gens chez qui j'allais, je ne pouvais pas m'empêcher de jouer au hasard, ting ting, quelques notes, mais toujours les notes les plus aiguës, au bruit de verre brisé, ou les plus graves qui faisaient trembler les tasses sur un guéridon proche. Jamais les notes du milieu, on aurait vu que j'avais alors aucune connaissance en solfège. Je me souviens de la vieille dame, à l'allure très digne, avec son petit chien, le long du trottoir vers la rue Saint-Antoine. Quand je l'avais dépassé, je l'avais entendu dire « Tu vois, Kiki, la boulangère, elle aime pas les gentils petits chiens comme toi, alors chaque fois qu'on passera devant, je m'arrêterai pour que t'aies le temps de faire pipi sur sa vitrine. » Très digne, la dame, sac à main de marque et manteau croisé. Je me souviens de la mention « Et plus, si affinité », enfin d'une annonce sur trois dans la rubrique rencontre du journal local. Je me souviens que chaque fin d'été, quand j'allais chez mes parents, je leur empruntais le numéro de Télérama dans lequel étaient indiquées les nouvelles grilles de rentrée de France Inter, Europe 1, RTL, France Culture, RMC et les autres, avec les nouvelles têtes, les voix des tranches matinales et les noms des animateurs et animatrices qui changeaient de radio, passant du public au privé et vice-versa. Je me souviens du général MacMahon, j'y suis, j'y reste. Je me souviens de I'm a poor lonesome cowboy, a long way from home. Mais je ne me souviens plus à partir de quel album Lucky Luke la fredonne en guise de générique de fin de BD. Et je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu la version originale de cette chanson qui existe pourtant. Et je pense d'ailleurs que chacun doit la chantonner à sa façon. Je me souviens que Claude Chabrol disait bon, « C'est quand même moins absurde d'être un riche de gauche qu'un pauvre de droite quand même. » Je me souviens de la plaque émaillée qu'Esther avait achetée boulevard Beaumarchais pour la poser sur la cabane de notre jardin à Trouville. Ici, le 17 avril 1891, il ne se passa strictement rien. Je me souviens du jardin d'acclimatation, de Bagatelle à Renduflié, de la Mer de Sable, de Mirapolis, du Parc Astérix, de Wallaby, de l'Aqua Boulevard, de Nigloland, du Maryland d'Antibes, du Puy du Fou, du Zoo de Beauval, sans y avoir jamais foutu les pieds, sauf peut-être à Bagatelle à l'âge de 9 ans. Je me souviens de Sang de Dieu, de Par la Malpeste, de Corne Gidouille, de Morbleu, de Sacre Bleu, de Diantre, Fichtre Foutre, de Ventre Saint-Gris, de Vertuchou. Je me souviens qu'Annibal de Coconas participa très activement au massacre de la Saint-Barthélemy. Putain, c'est même pas inventé un nom comme ça, Annibal de Coconas. Je me souviens qu'à chaque rentrée scolaire, on guettait sur le panneau d'affichage de la maternelle puis de l'élémentaire la liste des fournitures à préparer, mais surtout le numéro de la classe où allait être affecté François ou Marie et le prénom de l'instit. Et chaque année, on vérifiait si dans chaque classe, il y avait bien un Diop ou un Diallo. Normal. Avec quatre familles dans le quartier, il y a eu toute la fratrie pendant à peu près une dizaine d'années.
Quand elle arrive à sa table habituelle, j'ai tant envie d'être sa sentinelle. J'ai tant envie d'être de la clientèle. J'ai tant envie de jeter mes écuelles. Mais je n'ose pas. Mais je n'ose pas. Quand elle arrive et qu'elle ne me voit pas,
Moi déguisé en esclave, en loufia, j'ai tant envie de lui frôler le bras. J'ai tant envie de crier aime-moi, mais je n'ose pas. Mais je n'ose pas. Et le maître d'hôtel, bonjour madame, bien dormi. Bonjour madame, bon appétit. Saumon fumé, filet de sol, bouillie fuissée, profiterole, pâté de canard, agneau rôti, demi-pommard, salade de fruits. Merci madame, bon appétit. Merci madame, garçon, ici. Quand elle s'assoit à sa table habituelle, escortée d'un banquier, de la clientèle, j'ai tant envie de l'appeler infidèle. J'ai tant envie de pleurer dans mes gamelles, mais je n'ose pas. Mais je n'ose pas. Quand elle s'assoit et qu'elle ne pense pas à moi qui crève au milieu de mes plats, avec mes mots d'amour qui ne serviront pas, j'ai tant envie de faire un coup d'éclat, mais je n'ose pas. Mais je n'ose pas. Et le maître d'hôtel, bonjour madame, bien dormi. Bonjour madame, bon appétit. Saumon fumé, filet de sol, bouillie fuissée, profiterole, pâté de canard, agneau rôti, demi-pommard, salade de fruits. Merci madame, bon appétit. Merci madame, garçon, ici. Mais le jour où, de sa table habituelle, elle m'a fait signe de venir auprès d'elle, j'ai laissé là, aussitôt pêle-mêle, mes rinces doigts, mes verres et ma vaisselle. Pour la première fois, pour la première fois, elle m'a souri, elle m'a dit au revoir, mais dans ses yeux il y avait mon regard. Elle a tendu sa main vers mon espoir, mais dans sa main il n'y avait qu'un pourboire. Bonjour madame, bien dormi. Merci madame, bon appétit. Saumon fumé, filet de sol, bouillie fuissée, profiterole, pâté de canard, agneau rôti, demi-panard, salade de fruits. Merci madame, merci madame.
Ah, une construction au cordeau dans cette chanson, une puissance et l'interprétation d'Henri Tachant, qui aura maintenant à jamais 83 ans, puisqu'il nous a quittés ce 16 juillet. Et on lui rendra un petit hommage comme ça au travers de quelques chansons dans cette émission. Cette chanson, il me semble que Tachant avait débuté effectivement à bosser, non pas dans les... Il a bossé dans les cabarets, effectivement, mais Jacques Brel l'avait repéré et avait dit « Putain, c'est un grand celui-là, faut compter dessus. » Mais il avait bossé effectivement comme garçon. D'ailleurs, il y a la table habituelle, mais il y a aussi le garçon qui te sert, madame, en portant ton dessert, madame. Il bande comme un cerf, madame, et tu le sais. Le garçon qui t'apporte, madame, ta grillade ou ta flotte, madame. Tu mouilles ta petite culotte, madame, et il le sait. Mais tous deux vous baiserez, madame, chacun de votre côté, madame. Les vaches sont bien gardées, quel drame, l'incommunicabilité. Voilà, ça c'était sur ses albums du début, on feuilletera peut-être autre chose dans l'émission d'aujourd'hui. Émission d'aujourd'hui avec autour de la table, trois piliers, ça permet de faire tenir une table si on les pose normalement. J'irai faire le quatrième si nécessaire pour la partie de cartes. Alors, qu'avez-vous apporté? Présentez-vous.
Les trépieds sont de retour. Bonjour Nicolas. Eh bien, je reprends les lectures de Patrick Denis, tirées de son livre « Comme la truite sous la pierre ». Et ce sont des écrits de jeunesse quand il était en Bretagne et aussi par la suite quand il est venu un peu sur Paris et ensuite un peu plus loin. Voilà. Donc, il y aura peut-être un ou deux textes. Voilà. Michel.
Je suis venu avec les œuvres de Marcel Schwab. Et je vous en lirai un petit passage.
Un bon passage. Et Elsa.
Alors, ce sera une alternance entre les poèmes choisis par Daniel Gélin et les poèmes de grand-père Jean. Et si peut-être un long poème de Sergueï Essénine sera glissé ou peut-être pas, tout dépendra. Ça sera la surprise. Voilà.
Et j'aurai bien entendu un petit cadeau d'Evelyne et un petit cadeau de Jean-Marie depuis le sud lointain. Mm-hmm. On commence tout de suite ?
On commence tout de suite.
Allez.
Allons-y également. Le vertige de l'automne. Les torses décharnés des ormes rabougris s'enchevêtrent. Et leurs bras, aux doigts épouvantables, lacèrent le sentier qui se tord et gémit, couleuvre agonisante, au sursaut pitoyable. La mare se soulève aux rafales du vent, ivre de longs baisers de l'amant magnifique. Témoin de cet hymen aux lueurs fantastiques, un vol noir de corbeaux les salue en passant. La prairie est jonchée de débris de l'automne, deux chevaux irréels se meuvent dans la brume. La terre, sous les sabots, jaillit comme l'écume et retombe légère telle une eau qui frissonne. Sur la branche maîtresse et nue d'un grand sapin, les corbeaux sont posés. Vieux sorciers de novembre, brusquement se sont tus. Et, figés, ils attendent on ne sait quel sabbat, quel horrible festin. Le soleil qui rougeoie au-dessus de leur tête les enivre du sang qui se répand en nappe et noie l'espace immense, et poursuit et rattrape les nuages de feu, étranges silhouettes. Tout est couleur de sang, les ormes et les chevaux, et la mare et le ciel et la terre et les ormes. Il a été achevé à Caudebec-en-Caux le 17 août 1967.
Avant-hier bêtement, j'ai relu le grand môme, j'ai traqué mon enfance au fil des pages jaunes. Dans un coin de grenier, j'ai voulu sans vergogne et sans billet refaire mon voyage en Sologne. Dans un coin de grenier, j'ai voulu sans vergogne et sans billet refaire mon voyage en Sologne. Mais j'ai bien trop lu. Trop lu de livres pour les grands. Adieu, que je suis déçu, déçu par mes livres d'enfants. Hier matin, je m'embarque pour un pèlerinage vers mes 15 ans blottis dans leur petit village. Le cœur battant le long d'un sentier d'Aridel, j'attends Buffalo Bill sur un coin de margelle. Le cœur battant le long d'un sentier d'Aridel, j'attends Buffalo Bill sur un coin de margelle. Mais j'ai bien trop vu. Trop vu de palais formidables. Adieu, que je suis déçu, déçu par mes châteaux de sable. Aujourd'hui je te parle comme à
une étrangère, mon aimée d'autrefois, mamie, mon écolière. Et te disant bonjour, je voudrais tant et tant te dire que notre amour a encore 18 ans. Et te disant bonjour, je voudrais tant et tant te dire que notre amour a encore 18 ans. J'ai bien trop couru, couru les filles de passage. Adieu, que je suis déçu, déçu par les dames trop sages. Demain je blanchirai à l'ombre d'un sapin, de routine en regret, de regrets en refrain. Et j'essaierai encore une dernière fois de refaire à rebours mon long chemin de croix. Et j'essaierai encore une dernière fois de refaire à rebours mon long chemin de croix. Mais je n'aurais jamais pu, non jamais pu, apprivoiser le temps. Adieu, je suis déçu, déçu, que je suis décevant.
Tâchons encore, évidemment, avec « J'ai relu Le Grand Maulne », c'était sur l'album « Le Pont Mirabeau », et là on retrouve une des passions d'Henri Tâchon. Je me souviens, quand j'avais discuté avec lui, il ne pouvait pas s'empêcher de fredonner, et tout ce qui est musique classique, ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini, il avait une grande culture là-dessus, et en plus il rendait ça joyeux. Donc là, sur ce morceau, ça sent et ça s'entend. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, au suivant.
Je vais vous lire alors un texte de Marcel Schwab. Ça s'appelle La Grande Brière. Après les routes encaissées, sillonnées d'ornières boueuses, où la carriole cahotait, où le cheval relevait rudement du cul et où le cocher qui fumait sa pipe pourte jurait et tapait, son grand chapeau sautant au vent, des terres stériles s'étendirent devant nous, semées de pierres grises. Les ajoncs y poussaient par bouquets, avec des genêts rares. Plus loin, le sol descendait sur une pente régulière et devenait vaseux. De grandes mares s'ouvraient sur les côtés du chemin, et les hideuses grenouilles s'y plongeaient à corps perdu. La ferme, chapée de chaumes moisies, s'allongeait entre deux masures basses sur un tapis de paille hachée, détrempée de purin. Une femme parut à la porte, le tablier relevé, elle nous regarda d'un air soupçonneux, et quand nous entrâmes, elle marmonna des paroles malignes. Le sol était de terre battue, les poutres noires qui couraient le long du plafond portaient des pins ronds dorés. Les andouilles pendaient par rangées, et des quartiers de salets s'entassaient sur une travée. Dans la fenêtre, deux ouvrières jetaient la navette sous un métier à tisser, où les fils se croisaient et se décroisaient à chaque battement de la mécanique. L'une d'elles avait un grand pli dans le front, des yeux noirs, encavés sous des sourcils durs. Les seins paraissaient petits mais fermes dans le corsage à lacets. Tout le corps était d'une maigreur gracieuse. D'une mine revêche, la paysanne donna du beurre, poussa le chapeau de la table posée sur un coffre, coupa des liches de pain, cassa des œufs dans un plat de terre jaune. Quand nous demandâmes à aller au marais, elle nous regarda avec fureur et appela son homme. Il était derrière la porte, dans l'étable à bœuf. Son pantalon effiloché pendait autour de ses sabots cerclés de fer, et deux larges bretelles soutenaient la ceinture à mi-poitrine. Sa figure était mince et inquiète, ses yeux erraient perpétuellement vers tous les objets, il caressait ses favoris blancs avec crainte. « Dans le marais, vous voulez aller ? » demanda-t-il. « À quoi faire ? Là, les eaux qui sont basses, c'est du patouillage que de virer là-dedans. À moins qu'il y ait deux gaffes, je pourrons point un seul, bien sûr. » « Prends Marianne, qu'à toi, dit la femme, elle est forte à cette heure. » L'une des couseuses, qui avait le pli dans le front, leva le nez. C'est toujours pas après le canard que vous venez, reprit l'homme. Pardon, excuse, des fois, parce que il n'y en a pas encore. Quelques bandes dans la rouge, peut-être ben. Et puis toi, dit-il à la couseuse, t'as pas vu les chasse-marées cette nuit. Tu veux ben venir aux demoiselles de Pornichet ? Marianne fronça le sourcil et rajusta sa robe. Le paysan se tourna vers nous et continua. C'est un malheur, voilà une fille qui est ben venue et qui a censément la tête tournée. Elle travaille dans une maison de Verla, chez les femelles de Paris. Ça lui prend à la minuit, c'est un poids qu'elle a sur la poitrine. Elle se tourne, elle se retourne, ça fait rien. Elle bisse sa couaille dans son lit, elle la mange, elle la roule sous ses pocres, elle lui fait des amitiés comme à une personne. Là, elle lui quérit des migots dans le guerrier, dans le garni, pour lui sucrer le bec, et puis elle bijote encore. Elle lit des mots, qui, ça fait pitié. Elle n'entend rien, ses yeux sont fermés, qui a de pis. Après, jusqu'à la mariée aînée, lave la partie à dormir. Son promis, qu'elle est de l'an passé, elle veut plus le souffrir. Elle pleure des fois. Elle dit qu'elle va vouloir bien se marier, qu'à lui, mais que c'est plus possible. Ça nous tourne les sangs. Elle semblait ne pas l'entendre. Elle nous attendait sur le seuil avec les armements du bachot. C'était une embarcation à fond plat, fraîchement goudronnée. L'homme nous poussa vers le chenal. Vers le chenal étroit, sinueux, qui menait au large du marécage. L'eau était noire à cause du sol, une tourbière brune creusée de sillons tourmentés. À mesure que nous glissions au ras des nénuphars, la plaine s'étendait à droite et à gauche, couverte au loin d'ajoncs jaunâtres et de rouches vertes. Les grandes tiges flexibles se courbaient par masses sous le vent. Comme une prairie sauvage à moitié inondée, la grande brière s'allongeait jusqu'à l'horizon avec ses hautes herbes frissonnantes. De loin en loin, le bachot raclait la tourbe et butait contre un terre-plein chevelu d'où s'élançait la rouche. On le retournait et il glissait de nouveau parmi les tiges rousses de nénuphars et les herbes rouges d'eau douce. Un ciel pâle cendré jetait sur la brière une lumière tamisée. Des vols d'oiseaux partaient au-dessus de nous avec des cris rauques. Par places, les rayons vaporeux du soleil faisaient parmi les pieds d'herbage des miroirs blancs et vagues. L'eau tremblait entre les tiges, les roseaux se croisaient sur les mottes de tourbe et les racines blanches qui affleuraient semblaient des paquets d'anguilles pâles, mortes d'ennui. « On verra pas de demoiselle, » dit le paysan. Sa fille se retourna sur le cou et montra une volée de bêtes à droite. Nos fusils étaient prêts. La salve n'amena qu'un oiseau qui s'abattit lentement, décrivant une spirale dans l'air. Quand il toucha l'eau froide, il se mit à sautiller, battant la surface de l'aile, criant vers la lumière. Les jambes nues, l'homme alla le pêcher, il le tenait par la patte rouge. La demoiselle de Pornichet avait le corps gris tendre, la tête noire, le bec rose et long, avec des narines effilées. À ses cris, la bande de ses sœurs vint planer au-dessus du bateau, une nuée de sœurs qui piaillaient, tournoyant, s'abaissant, se relevant brusquement pour fuir à tire d'aile jusqu'à être des points noirs dans la cendre roussâtre du ciel, puis grossissant peu à peu jusqu'à courir sur nous, les ailes déployées, le bec ouvert, menaçantes et éperdues. Bientôt, la demoiselle se balança au bout d'une gaffe, fichée dans la tourbe, attachée par une patte. Elle tournait lamentablement et agitait son moignon d'aile, poussant par son bec béant des appels désespérés. La troupe entière attirait, répondait par des plaintes. Une pointe se détachait d'en haut et l'oiseau extrême tâchait de la délivrer. Nous tirions cependant, et les demoiselles tombaient par grands cercles, plongeant dans l'eau avec la tête noire et le bec rouge qui hochait par l'agonie. La chaîne ailée des autres, serpentant sur nos têtes, pleurait toujours. « Ça s'entraide, les demoiselles, » dit l'homme. « C'est plus maniable à tuer. » Comme il parlait, au fond du chenal, opposé par une barque verte, semblable à un animal né dans la rouche et qui habiterait là, la brière, on distinguait un homme debout à l'avant et derrière une petite tache noire et rouge qui devait être un chapeau de femme. Là, ta maîtresse, reprit le paysan, avait un brière avant de partir à Paris se marier. Ça serait point de mauvais exemple pour t'être prendre un homme. Le cri sauvage qui jaillit des lèvres de Marianne arrêta ses paroles. Elle était appuyée sur sa gaffe, ses yeux noirs dardaient des flammes, la ride sur son front était profondément creusée. « Allez, s'en va » cria-t-elle, « elle allait mène son amoureux en brière, et moi, où donc j'irai ? C'est pas des choses à faire. J'avais un promis, j'en ai plus, je suis maigre, asteur et piosseuse. J'en ai la tête virée, c'est aller, il y en est cause, et il n'y a pas de chasse-marée, c'est la parisienne, il n'y a pas de counaille. » Il n'y a pas de quoi, et c'est la parisienne à m'acheter un sort. Je ne pouvais pas durer sans elle, et je ne peux pas encore, mais à partir à point d'onda, point du tout, la ferait rester née. Affaissée sur la banquette, elle pleurait par grandes secousses, la figure cachée dans sa jupe, et la mine du paysan était devenue plus inquiète. Nous nous regardions en silence, ne sachant que penser. L'homme poussait le bateau à coups de gaffe, et tout à coup, un vol de canards partit lourdement de la rouche. Le temps de prendre la canardière, on ne voyait plus que 5 points au fond du ciel. Attirées par le départ, les demoiselles de Pornichet filaient par couple en allant et en arrière. En avant et en arrière, la barque verte s'approchait maintenant. Elle était droit devant nous. La jeune fille, assise en arrière, portait une robe gris clair avec un col rouge à large bord et un chapeau noir mousquetaire. Elle avait des cheveux blonds qui tournaient en frissons. Marianne cessa graduellement de sangloter. Elle se mordit les lèvres quelques instants et dit soudain « Je vais essayer d'en tuer moi aussi une demoiselle de Pornichet. » Elle étendit le bras, saisit la canardière, épaula et fit feu. L'acte fut brusque et cruel. La jeune fille de la barque poussa un cri aigu, suivi de plaintes chevrotantes. Elle tomba la tête penchée comme un oiseau abattu, et son col rouge était soulevé par le râle. Nous avions saisi trop tard le bras de Marianne, dont la figure était paisible et cynique, le front pur et sans rides. Le soleil, baissant à l'horizon, ensanglantait la cendre du ciel et coupait la rouche verte de reflets roses. La coupole de nuages se dorait à son sommet. Un cercle de brume cintrait la prairie ronde. Les derniers reflets du jour dansaient dans la grande brière. L'immensité désolée des herbages ondulants sur la tourbière inondée fuyait à perte de vue. Les demoiselles de Pornichet tournaient et pleuraient en criant autour de la jeune fille morte et tiraillaient sa robe de leur bec rouge. Alors Marianne se mit à rire et dit « Ça s'entraide, les demoiselles, c'est plus maniable à tuer. Allons, tirez !»
Sur l'étang, la nuit, y a des oiseaux gris qui ressemblent à des poissons étranges. Sur l'étang, la nuit, y a des ombres qui tournent, tournent comme des petits anges. Et soudain, leurs chants qui se répondent, trop la nuit, fend de l'air, fige l'onde. Et moi, je rêve sans faire un geste, cœur serré, mélancolie profonde. Sur l'étang, la nuit, passent les petits d'une poule d'eau qui vagabonde. Sur l'étang, la nuit, des chauves-souris tournent, tournent en une folle ronde. Et leur valse déchire le silence, à coups d'ailes perpétuelles en cadence. Et me reviennent les heures anciennes et les grandes peurs de mon enfance. Sur les temps, la nuit, dansent les esprits
nymphes follets, farfadets et sirènes. Sur les temps revive ma jeunesse, et puis fantôme d'autrefois, croque-mitaine. Sur les temps revive ma jeunesse, et puis fantôme d'autrefois, croque-mitaine.
Je suis sûr que quand vous avez entendu ces cris d'oiseaux, ces croassements de grenouilles, vous avez cru que je vous avais entraîné, moi, dans la Brière, à la suite du texte de Marcel Schwab, en allant chercher des bruits comme ça, et il manquait l'eau, le pas de quelqu'un. Eh ben non, en fait, c'est effectivement sur cette chanson d'Henri Tachant, sur l'étang, la nuit. Quant à la musique, d'ailleurs, elle n'est pas d'Henri Tachant lui-même, elle est de Niccolo Paganini. Comme je vous disais qu'il allait chercher parfois dans la musique des autres. Et d'ailleurs, en musique, qu'il faut deux noirs pour une blanche. Dans le studio, il faut deux cheveux blancs pour des cheveux noirs. À vous, Elsa.
Le compte est bon.
Daniel Gélin a sélectionné un poème de Benjamin Perret, « À l'eau ». Mon avion en flammes, mon château inondé de vin du Rhin, mon ghetto d'iris noir, mon oreille de cristal, mon rocher dévalant la falaise pour écraser le garde champêtre, mon escargot d'opale, mon moustique d'air, mon édredon de paradisier, ma chevelure d'écume noire, mon tombeau éclaté, ma pluie de sauterelles rouges, mon île volante, mon raisin de turquoise, ma collision d'autofolle et prudente, ma plate-bande sauvage, mon pistil de pissenlit projeté dans mon œil, mon oignon de tulipe dans le cerveau, ma gazelle égarée dans un cinéma des boulevards, ma cassette de soleil, mon fruit de volcan, mon rire des temps cachés où vont se noyer les prophètes distraits, mon inondation de cassis, mon papillon de morille, ma cascade bleue comme une lame de fond qui fait le printemps, mon revolver de corail dont la bouche m'attire comme l'œil d'un puits satillant, glacé comme le miroir où tu contemples la fuite des oiseaux mouches de ton regard, perdu dans une exposition de blanc encadré de momies. Je t'aime. Donc, poème extrait du recueil Je sublime, édition surréaliste.
Merci.
Tu es l'enfant que je n'ai pas voulu, tu es la mère qu'un jour je n'aurai plus, tu es l'ami que racontent les bardes, ma femme. Tu es tout ce que je n'ai pas aimé, 20 ans de peur, y a pas de feu sans fumée, et ce feu-là fragile, je te le garde, ma femme. Et puis, conjugalement parlant, on ne ressemble pas à ces gens qui s'épousaillent et qui se taisent. L'habitude a beau faire sa cour, notre petit foyer sur cour cherche la mer et ses falaises. Tu es l'enfant qui sanglote et s'endort, cet oiseau blanc qui revient vers le nord, tu es l'oiseau de tiédeur et de plume, ma femme. Tu es la lionne qui veille des petits, qui sont aux autres pas les siens comme on dit. Tu es la lionne aimante et redoutable, ma femme. Et puis zoologiquement parlant, ressemble pas à ces clans qu'on apprivoise et qu'on apaise. L'habitude a beau faire sa cour, notre petit Kenya
vient sur cour, cherche sa jungle et son embêtement. Tu es l'enfant étrange qui s'entête à préférer le genre humain aux bêtes. Tu es l'enfant qui croit toujours au monde, ma femme. Tu es la bouche des pauvres qu'on muselle, le poing tendu des manchots des rebelles. Tu es l'espoir qui palpite et qui gronde, ma femme. Et puis, socialement parlant, on ne ressemble pas à ces Durand, qui cocorique, qui marseillaise. L'habitude a beau faire sa cour, notre petite patrie sur cour, c'est un vieux sentier de Corrèze. Tu es l'enfant qui supplie dans le noir, dis s'il te plaît, raconte-moi une histoire. Celle où le loup n'a pas mangé la chèvre, ma femme. Et je murmure, il était une fois, et te voilà parti à travers bois, petite chèvre accrochée à ton rêve, ma femme. Et puis, tout bêtement parlant, nous on ressemble à ces enfants qui se réchauffe et qui se plaise. L'habitude a beau faire sa cour, notre petit bonheur sur cour se cache entre ses parenthèses. Tu es l'enfant que je n'ai pas voulu, tu es la mère qu'un jour je n'aurai plus, tu es l'ami que racontent les bardes.
Imaginons que le but du jeu soit de faire rimer les textes qu'on vous livre et les chansons qu'on vous délivre. Et bien là, c'était « Ma femme » d'Henri Tachan de 1975. Eh bien, dites donc, en 75, celle dont je suis le mari naissait tout juste. Radio Libertaire 89,4 MHz. Maintenant, ben tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire rimer avec un truc offert par Jean-Marie? Je sais, il n'y a quasiment rien qui puisse rimer avec les trucs offerts par Jean-Marie.
C'est un poème, une sorte de poème stellaire. Celui-là a été composé par Oscar Miloš et il m'a bien plu. La lune à la terre. Comme un petit matin se pose avec amour sur un beau front en proie à la mer pensée, permet que je caresse, ô ma sœur délaissée, ton visage attristé par la fuite du jour. Ce n'est point le soleil disparu que tu pleures. Il brûle seulement d'un éclat emprunté. Tu soupires, ma sœur, vers les hautes demeures de celui-là qui luit dans sa propre clarté. Comme toutes nos sœurs dans la nuit dispersée, nous cherchons le sentier qui saurait enfin conduire à ce suprême objet de nos pensées. Car nous devons un jour nous fondre dans le sein de celui qui saura des songes que nous fûmes refaire d'un seul mot une réalité, et de nos corps, longtemps dispersés dans les brumes, rétablir à jamais la mystique unité. Si, baigné dans les eaux, Le reflet de ma face plaît aux yeux des songeurs et des initiés. Quel chant d'amour s'élève au profond de l'espace lorsque tu m'apparais au-dessus des glaciers. Ne lève point vers moi ton beau regard d'eau tendre, car en m'apercevant si pâle le de sommeil, tu t'imaginerais me voir là que la cendre et de ce qui tantôt la flamme du soleil. Imagine qu'un jour la parole de la terre te viendrait d'aussi loin que la faible chanson qu'on écoute à travers une porte de verre et qui ne passe pas le seuil de la maison. L'instant n'est point venu. Sur tes blanches rivières et tes lacs aimants, berceau des nymphéas, laisse encore dormir les brumeuses paupières. Ferme tes chastes fleurs, car je ne voudrais pas de tous ces yeux d'amour avant l'heure d'être vus. Non, je veux apparaître à l'horizon de juin, dans le rayonnement d'une gloire inconnue au miroir de tes mers, comme au regard humain. Oscar Miloche, merci.
Je vis au menton. Je n'ai point de séquelles de ces temps religieux où d'hostie en autel on gavait de bon Dieu. Tout juste un petit fantasme qu'avec joie j'assouvis chaque soir à ma femme. Je demande, ma chérie, déboutonne ma soutane un par un les boutons, déboutonne ma soutane des chevilles au menton, déboutonne ma soutane bien en génuflexion et tu verras mon âme en pleine élévation.
Alléluia.
Tous mes anciens collègues furent plus durement touchés. Ils sont devenus bègues ou critiques ou pédés. Moi je n'ai qu'un petit fantasme qu'avec joie j'assouvis chaque soir à ma femme. Je demande, ma chérie, déboutonne ma soutane un par un les boutons, déboutonne ma soutane les chevilles au menton, déboutonne ma soutane bien en génuflexion. Tu verras mon Jésus et ses deux petits larrons.
Alléluia.
J'en veux pas au bon père qui à mes confessions sentait le foutre amer et la transpiration. Je n'en garde qu'un petit fantasme qu'avec joie j'assouvis chaque soir à ma femme. Je demande, ma chérie, déboutonne ma soutane un par un les boutons, déboutonne ma soutane les chevilles au menton, déboutonne ma soutane bien en génuflexion. Tu verras mon lézard en pleine résurrection.
Alléluia.
Tu as mis ta cornette, tes jartelles et tes bas, ton déguisement honnête et ton petit slip en soie. Et moi, je ris, j'exulte de chanter cette chanson en souvenir de ces brutes qui m'ont fait polisson. Déboutonne ma soutane un par un les boutons, déboutonne ma soutane des chevilles au menton, déboutonne ma soutane viens en génuflexion et faisons ma sœur Anne notre vraie communion, et faisons ma sœur Anne notre vraie communion. Déboutonne ma soutane un par un les boutons, déboutonne ma soutane les chevilles au menton, déboutonne ma soutane bien en génuflexion et faisons ma sœur Anne notre vraie communion, et faisons ma sœur Anne notre vraie communion. Déboutonne ma soutane un par un les boutons, déboutonne ma soutane les chevilles au menton, déboutonne ma soutane bien en génuflexion et faisons ma sœur Anne notre vraie communion, et faisons ma sœur Anne notre vraie communion. Déboutonne ma soutane un par un les boutons, déboutonne ma soutane les chevilles au menton, déboutonne ma soutane les chevilles.
Ah, 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 ah.
Ah, vous l'imaginez en studio en train de faire les ah, 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 finaux comme ça. Des boutons de ma soutane sur l'album Telle est la télé d'Henri Tachant. Donc, ce côté de l'œuvre d'Henri Tachant. Parce que les pompères assez pervers et vicieux, il l'a connu et il a évoqué ça dans J'ai pas vécu. C'est très fort comme chanson des débuts. Là, on est parti dans le côté plus guiré quand même d'Henri Tachant et ça me rappelle quand même le long moment quand il était sur scène avec sa chanson « Fais une pipe à Pépé avant qu'il ne la casse, une petite langue à mémé avant qu'elle ne trépasse », il faisait chanter ça à tout le monde. Et moi, j'ai le souvenir quand même de mes parents. Bon, on a été élevés comme on a été élevés. Mes parents, ma maman, elle disait « Une pipe à Pépé, mais pourquoi il veut lui faire une pipe ?» Elle pensait ingénument, ma mère, elle avait quand même conçu 3 enfants, mais elle pensait ingénument à la bouffarde qu'on fume comme ça. Il a fallu que ma mère, que ma sœur, cette fois-ci, lui dise « Mais maman, tu sais, faire une pipe, c'est tailler une pipe, c'est... » Bon, je vous passe les gestes, l'explication. Et là, ma mère s'est retrouvée coincée parce qu'elle avait quand même chanté ça à un spectacle d'Henri Tachant, une fois à Conflans, comme ça, en public. Il y avait aussi... Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan. Pas à cause de son cri, son fameux cri de bête. Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan, tout simplement parce que j'enviais sa quéquette, la quéquette à Tarzan, jour et nuit j'en rêvais. Lorsque je contemplais tristement ma virgule, la quéquette à Tarzan, ah oui, je la greffais, sans vergogne à la place, mon zizi de libellule, quand j'étais petit. J'idolâtrais Tarzan, pas à cause de ce qui savait parler aux bêtes. Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan, tout simplement parce que j'enviais sa quéquette. La quéquette à Tarzan, je me l'imaginais s'élançant fièrement entre mes deux petites cannes. La quéquette à Tarzan, faut dire que je l'enviais proportionnellement au beau curon de Jeanne. Quand j'étais petit, j'idolâtrais Tarzan, sa taille, ses biscottos, et surtout sa quéquette. Quand j'étais petit, j'étais comme les grands. J'aurais tellement voulu me farcir sa nénette. Voilà, c'était ça aussi, Henri Tachant. Qui assume avec ça? Allez, c'est parti.
Souvenir avec un S. Voici que peu à peu, mes souvenirs obscurs revivent en mon être et, troublant mes pensées autant de jours enfin que j'ai cru oublier, s'éveillent aux ébats du vent dans les ramures. Quand le jour s'étirait sur les coteaux brumeux, quand la caresse chaude et tendre de la vie passait avec lenteur sur les toits endormis, s'entr'ouvraient les fenêtres bouffies comme des yeux. Et le petit clocher de la vieille chapelle égrenait les 6 heures avec sérénité. Par les portes cochères sortaient les maraîchers, les charrettes grinçaient tout au long des ruelles. La Seine paresseuse somnolait dans la brume, douillettement blottie sous les draps vaporeux. Au temps passé, ton cœur avait chéri ces lieux, bel ami, tu flânais au déclin de la lune. Indifférent au jour, toutes les fenêtres closes, ta demeure, solitaire ivre de nostalgie, au souvenir ardent des instants de la vie que tu lui accordas, laissait faner ses roses. En se remémorant les douces matinées, les barques sur le fleuve allaient en dérivant. En tête de la flotte, Monsieur de Maupassant, le prince magnifique au large canotier. Et la course accomplie, les rameurs fatigués venaient prendre repos à l'ombre des tonnelles du jardin coloré. Et sur les balancelles chantaient les jeunes femmes nonchalamment bercées. L'or c'était bien fini, et les coques légères dérivèrent au loin, entraînées par les ans. Et les péniches grises qui passaient en hurlant déchiraient le silence de ces matins trop clairs. Aussi, sur les hauteurs du quartier Saint-Martin, c'était la rue Molière. Et là, notre maison, gentille nid de verdure et d'un si joli nom, fut baptisée la rue caressant le jardin. et toujours le silence, le calme souverain. J'aimais à me lever tôt dans la matinée, à descendre fouler les graviers de l'allée, fêté par les oiseaux, salué par les chiens. En ce lieu de bonheur, j'ai chéri la nature aux branches de lilas, pendre des rubans bleus, des rêves d'un enfant qui croyait au bon Dieu et l'écoutait chanter là-bas, dans les ramures. Écrit le 23 octobre 1967.
On ne retombe jamais en enfance, l'enfance on l'a jamais quittée. C'est vieux qui vers l'hiver s'avance, ont encore un pied dans l'été, l'été de leurs grandes vacances, où bourdonnaient les champs de blé, où les longs cheveux Laurence s'envolait au vent de juillet. Jamais en enfance, l'enfance je l'ai jamais quittée. Mon vieil ours en peluche danse sous l'ampion d'absurdité, et tous mes chevaux de manège blancs à la crinière argentée galopent encore dans la neige de mes Noëls décapités. On ne retombe jamais enfance, ma douce, ma tiède, oh mon bébé, tous deux blottis dans le silence de quelques berceaux dérobés, on se tête et on se balance comme deux jumeaux nouveau-nés dans le jardinet de l'enfance, où on sera toujours jardinier, où on sera toujours jardinier.
Radio Libertaire 89,4 MHz, il est 16h30, pour ceux qui l'auraient oublié, qui n'auraient pas pris de note depuis le début, je vous fais une programmation musicale pour tous les intermèdes à base de chansons d'Henri Tachant, qui nous a donc quitté à l'âge de 83 ans. Pour ceux qui n'auraient pas pris de note depuis le début, on est de retour et vous allez pouvoir prendre des notes pour la suite, puisque les prochaines émissions de Dessous de Scène, la semaine prochaine, on aura des invités proposés par Laurent, je sais
et Cariel a des notes plus précises que moi en ce sens. Ensuite, on retrouvera aussi pour les 9 et 16 septembre, eh bien, du théâtre proposé par Evelyne, avec notamment Isabelle Sprung pour un spectacle sur Sarah Bernhardt et Fabien Roland. Alors, à mon avis, et Fabien Roland, c'est pas le spectacle sur Sarah Bernhardt et Fabien Roland, c'est Fabien ensuite. Le 16, des invités théâtre, d'autres invités de Laurent qui sont dans les tablettes. Tu as ça, Ariel? Tu as des notes là-dessus ou...
Je pense que...
C'était pas plutôt moi. Des invités de moi.
16 et 23, peut-être que c'est moi, je ne sais pas.
Oui.
Mais...
et début...
En octobre, il doit... Je crois que... Il doit y avoir un chanteur qui doit faire un spectacle à Publico et que Laurent va recevoir le samedi. Je crois que c'était
Michael Puchado. Oui, Michael Puchado qui a traduit Brassens.
Il doit passer le dimanche à Publico. Dans l'après-midi, vers 16h, et Laurent va le recevoir avant pour qu'il puisse parler un petit peu de son spectacle. Voilà.
Et on aura aussi avec Laurent de la poésie malgache, si j'ai bien lu les petits messages. Voilà, ça c'est... Donc, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on a?
Je ne sais pas, c'est toi?
Je peux lire un poème de Papy Jean, il s'intitule « Numéro ». 1. Demander quels sont les moyens pour arriver à la perfection, c'est déjà considérer cette perfection comme impossible. 2. La foi est tout autre chose qu'une croyance sacrée doublée d'amour impersonnel en une vérité universelle, fondamentale et unique qui nous ramène à la certitude en la divinité. En tout premier lieu, la foi ne peut être sans la grâce, et la grâce est la connaissance participante de l'être de sa position cosmique. La foi, sans cette connaissance supérieure, acquise par la grâce, ne peut être qu'une bonne volonté ou un désir indispensable à croire dans la nécessité d'une transcendance. La foi ne peut être un moyen, mais elle est bien un état de grâce, inconscient, et nécessairement inconscient pour être parfait. C'est un état de réalisation au sens de la sadhana hindouiste. C'est le privilège de l'être manifesté, retourné à son origine, c'est-à-dire conscience ultime de sa propre divinité à l'égal de la conscience de Dieu pour sa propre divinité, non manifestée mais toute potentielle. 3. Le nombril du ventre de la femme est le point cosmique et initial de la génération spontanée. Ce point dispersé bien avant s'unifie dans un convoi de vibrations sexuelles vers le centre. Et les limites visibles à l'œil sont les hanches balancées. Les hanches ne partent du nombril, mais vont vers le nombril après un long voyage à travers le cosmos pour devenir osmose lunaire. Les hanches habillées donnent le rire de la robe. Et la femme rit comme les plis de la robe à la hauteur du ventre. La lumière à cet endroit se tonifie au jaune et quelquefois au rouge. Mais le rouge dévore l'espace. Alors la femme paraît gouverner dans la société. 4. Les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme sont des yeux qui n'ont pas encore vu la lumière. 5. Faire le plus souvent l'amour prépare à bien mourir. 6. Je ne suis jamais le même. Et comment pourrais-je être tous les jours le même puisque chaque jour n'est jamais le même jour? 7. C'est la vie même. On tue à chaque instant et à ce même instant on engendre. Détruire, c'est construire nouveau. 8. La morale est ennemie de l'esprit. Le drame, le champ à expérience. La vie est un drame permanent. 9. Un homme sans religion est un homme sans sexe, et l'asexué n'a pas de vie. Il est mort. 10. La religion n'est pas dans la religion, elle est en dehors du dogme religieux. 11. La guerre est une danse dont la ronde est faite de frères ennemis. 12. L'enfant qui imite son père devient un esclave. 13. La sentimentalité crucifie le cœur. 14. La conscience est un expédient. 15. Le cœur est l'aliment de l'âme. 16. La haine de quelque chose, c'est l'amour d'autre chose. 17. Nous sommes chacun responsables du mouvement des choses qui nous entourent, de l'amour et de la haine des êtres qui nous environnent, et des événements heureux ou malheureux qui nous surviennent. 18. La timidité est faite d'égoïsme. 19. La paresse est la négligence du cœur. 20. L'idée érotique est semblable à un accouchement. L'érotisme serait l'accouchement de l'âme. D'où la nécessité de se cultiver en permanence dans l'idée érotique pour en arriver à un état permanent d'accouchement. Le grand accoucheur de tous les instants, c'est Dieu Mère de la matière génération spontanée. 21. Le riche a besoin du pauvre pour demeurer dans la richesse. Le pauvre a besoin du riche pour demeurer pauvre et faire acte de pauvreté. 22. L'or, c'est l'eau et le feu. Papy Jean l'a écrit à Paris en mars 1953.
Merci.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Sont leur tigée horizontale, leurs petits siphons, leurs deux babales. Peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Sont leurs petits sceptres dans leurs culottes. Leurs petits périscopes sous la flotte. Sont le bâton ou la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braquettes, dans des gros rires à la buvette, les hommes. Ils se racontent leurs petites guerres, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère, les hommes. Ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins qu'une sorte de hors-cité, un homme. S'aiment les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux, enfin quoi c'est pas comme nous. Les hommes s'aiment les femmes à la folie, passives, muettes, mais jolies, de préférence dans le lit. Des hommes au babirou ou au boudoir, à la tortore ou au trottoir, s'aiment les femmes sans espoir. Les hommes prostituées ou pénélope, apprivoisées ou antilopes, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes sont abattus les Tibétaines. Sont fricassés les Africaines, sont indignés les indigènes, les hommes. Sont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux châtelaines, il est habillé à Mémène, les hommes. Excusez-moi, mais elle me gratte, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate, des hommes. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir, de votre mafia, votre empire, des hommes. À chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Ah, elle est bien celle-là, hein, effectivement. Chanson d'Henri Tachon. D'ailleurs, j'ai repensé à cette chanson aussi parce qu'il y a une jeune chanteuse qui, toutes les semaines, propose son amusement dimanchesque, une dénommée Magali Lucie, qui chantait également ses propres chansons, mais qui, dans ses amusements dimanchesques, enregistre à chaque fois, pour le plaisir de ceux qui veulent se brancher sur Internet, une chanson. Et là, très récemment, elle a repris « Les hommes » d'Henri Tachant. Elle a repris « Interrogations écrites, fermées, livres et cahiers » de Gilbert Lafaille. Elle a repris du Anne Sylvestre. Elle a repris plein de gens du Jean-Yann, plein de gens de bonne qualité comme ça. Je vous recommande cette chanteuse. Reportez-vous sur Internet. Elle fait pas beaucoup de vues, mais ça vaut le détour. Et puis, si finalement, grâce aux auditeurs de Radio Libertaire, elle passait de 150 vues à 350, ça me ferait plaisir et ça lui ferait plaisir aussi, sans doute. Radio Libertaire, qu'est-ce que je vais vous offrir maintenant? Maintenant, c'est le petit cadeau d'Evelyne, mais elle est pas toute seule puisqu'il y a Michel seul.
Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Pour un précipité d'impatience, en battant en mesure l'éclatement d'une coquille d'œuf? C'est de l'argent. C'est bien l'instant qui compte. D'un oubli partagé en cœur au spectacle. Et pour qui te prends-tu, toi, Prométhée aveugle? Écoute donc la pluie sur ton aile de rocher, illuminée d'orage. Seule ta langue animale a vu danser l'enfant. Ta chair a fondu un soir de rage pour devenir la mère si bavarde dans le creux de tes mains. Et pour qui te prends-tu, toi, Prométhée aveugle, d'un rocher qui expire? Laisse-moi deviner comment ton regard, affrontant l'horizon, vit ruisseler à ses pieds la parole d'un enfant.
Et voilà, ça c'était le cadeau d'Evelyne. Ah oui, j'aurais dû enchaîner par une chanson. Ben non, tiens, petite précision, la chanson « Les hommes » date de 75 aussi. Et Tachant, moi, pour ma part, je l'ai pas rencontré en 75, j'étais trop petit et Radio Libertaire n'existait pas encore. Radio Libertaire, elle existe quand même depuis 1981. Et puis, si vous voulez vous reporter à toute l'histoire des radios qui l'ont précédé, créées par des potes de l'AFA dans différents endroits, vous pouvez trouver des sources sur Internet. Et il y a peut-être toujours quelques exemplaires du bouquin d'Yves Perrault à la librairie du Monde Libertaire. Mais à l'époque, Tachant avait écrit aussi une chanson que je vais vous livrer maintenant. Non, parce que moi, quand je l'ai rencontré en 88, j'ai dit, mais il n'y a pas une contradiction entre ce que tu as écrit en 75, quelque chose comme ça, « Je ne veux pas d'enfant », et ce que tu nous mets sur l'album de 88. En 75, effectivement, c'était « Je ne veux pas d'enfant, pas de fruits à mon arbre, à mon chêne, pas de gland, à mes joues, pas de barbe. Je ne veux pas d'enfant, pour consoler ma mort, pas de petits mutants, pas de petits médors. Je ne veux pas d'enfant qui sèche au tableau noir, à la guerre de 100 ans,
au fond d'un réfectoire, pas d'enfant au curé, au gradé, au grognasse, pas d'enfant au piqué, au premier de la classe. Je ne veux pas d'enfant qui pleure ou qui babille et dont on est fier quand il fait souffrir les filles. Je ne veux pas d'enfant pour réussir mes rêves, les rêves des parents qui s'étiolent et qui crèvent. Je ne veux pas d'enfant qu'on s'épingle en médaille, qu'on arbore clinquant bien avant la bataille. Je ne veux pas d'enfant pour la paix des ménages, petit témoin tremblant des couples en naufrage. Je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas normal. J'ai déserté les rangs du troupeau génital. C'est comme si j'étais nonne, gauchiste ou non-violent, enfin de cette pègre qui fait peur aux parents. Je ne veux pas d'enfant, je le gueule à la face de ce monde des grands, assassins et rapaces. Pas d'enfant pour vos guerres, vous les ferez sans lui. Dans le sein de sa mère, il objecte sa vie. Dans le sein de sa mère, il objecte sa vie. Et puis en 88, ben, comme il avait eu des enfants, il chantait ça.
Grippe ravageuse, rhume, fièvre afteuse, maladie normale qui finissent mal. Glissade fatale, une voiture s'emballe au coin d'une rue paisible et qui tue. Ravagez-moi, enrhumez-moi, balancez-moi tous vos bacilles, écrasez-moi, ce n'est que moi, c'est pourtant pas très difficile. Mais ne touchez pas à ma petite fille, ne touchez pas à ma petite fille, ne touchez pas à ma petite fille, ne touchez pas à ma petite fille. Guerre planétaire, céréale killer, pédophile ou non, assassin sans nom, idiot du village, pervers sans visage, ou souris ou homme, ou bourreau en somme. Bombardez-moi, dépecez-moi, passez sur moi tous vos fantasmes, torturez-moi, achevez-moi, ma vie contre tous vos orgasmes. Mais ne touchez pas à ma petite fille, ne touchez pas à ma petite fille, ne touchez pas à ma petite fille, ne touchez pas à ma petite fille. Dieu de mes baloches, Jupiter des cloches, architecte ignare, anarchique hasard, gros crétin suprême ou sadique extrême, grand parrain du ciel, gros con éternel. Amuse-toi bien avec moi, tire-moi bien part de toutes tes ficelles, mais que sur moi tombe ton contrat, que sur moi et jamais sur elle. Car ne touche pas à ma petite fille, ne touche pas à ma petite fille, ne touche pas à ma petite fille, ne touche pas à ma petite fille. Car ne touche pas à ma petite fille, ne touche pas à ma petite fille, ne touche pas à ma petite fille, ne touche pas à ma petite fille.
Radio Libertaire 89,4 MHz, eh bien il est 16h48, ce qui veut dire que dans 12 minutes, ça sera Bulle Noire, une rediffusion cette semaine. Je plongerai dans les archives en fonction de ce que j'arriverai à ouvrir sur ma clé USB. Je ne prends pas trop de risques comme la dernière fois. À moins que ce ne soit Bulle de rêve, mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'Alexis ait fait signe en ce sens et Ariel me confirme la chose. Ce qui veut dire dire qu'en 11 minutes, puisque j'ai gaspillé une minute pour vous dire tout ça, on a encore le temps d'avoir des textes.
Il n'y a jamais de gaspillage. Alors, Pascal Denis a écrit un texte après la vision du film Fahrenheit 451, d'après la nouvelle de Ray Bradbury. Je ressens l'angoisse, la crainte. La crainte mêlée de doutes, entre parenthèses encore. Est-il chose possible ? Fahrenheit 451, c'est atrocement réel. C'est le miroir de l'évidence. Pauvre fou. Tout serait pourtant si simple, si beau. Je sais, je ne sais pas, mais je vois. Il y a en moi une sympathie pour les vrais aveugles, la négative absolue. Et l'on crée pour lui le déant. C'est bien complexe. Il faut le pressentir, l'accueillir, mais nul ne sait plus. A-t-on jamais su ? D'ailleurs, la vérité se confond avec cet amas malaxé, déchiré, redispensé, comme au terme de la chaîne, à l'usine. Tu prends, mais tu prends le tout. Toi, en luminure, luxe du dictionnaire, tu crois encore ? Mais à quoi ? Vers qui ? Pourquoi ? Bon Dieu, je t'en conjure, regarde avec toute l'intention dont tu es encore capable. Ce n'est plus qu'une image, l'illusion, manœuvre tactique. Attention, vieux, ta scoliose ne s'arrange pas. Écrit le mardi 15 novembre 1967.
Belle famille que j'entends dire qu'il faut mettre vos enfants dans des collèges religieux pour qu'ils travaillent beaucoup mieux. Regardez-moi là bien en face, moi le rescapé de ces rapaces, moi qui plus de 30 ans après bouffe et rebouffe du curé. J'ai pas vécu, 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 j'ai pas vécu. Quand nous étions à la chapelle, si la musique me semblait belle, je trouvais leurs paroles d'évangile archi totalement débiles. À 7h30 chaque matin, c'était la messe et j'avais faim. Chaque matin dans les vitraux, je voyais des chocolats bien chauds. J'ai pas vécu, 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 j'ai pas vécu. Toutes les nuits dans le dortoir, les mains sur le dos dans le noir, j'agitais des pensées vénales, guettées par l'abbé la pédale. Le mystère de l'incarnation me faisait gonfler le pantalon. C'est vrai que la Vierge Marie, c'est la seule femme que je vis. J'ai pas vécu, 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 j'ai pas vécu. Il y avait bien Mademoiselle Bure, l'Alsace au milieu de la figure, la règle en fer que je te cogne et que je te jouis sur les poignes. Pardon, j'oubliais l'infirmière, pauvrette au regard de travers. Dans ma cuisse, j'ai planté une lame, rien que pour sentir des doigts de femme. J'ai pas vécu, 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 j'ai pas vécu. Lorsque tu sors de cet endroit, vois-tu, tu marches beaucoup moins droit. Pitié pour les petits bossus de votre religion de mon cul. À la première jupe entrevue, je titube comme si j'ai bu. C'est vrai que les jupons, c'est normal, tous ces curés les portent mal. J'ai pas vécu, 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 j'ai pas vécu. Et aujourd'hui que je suis grand, j'ai tant à rattraper, j'ai tant manqué de tendresse et de femme, tant pris de coups de bleu à l'âme, qu'à 40 et quelques années, j'ai comme l'impression que je suis pas né, qu'on a saccagé mes 15 ans, j'ai comme l'impression simplement, j'ai pas vécu, non j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, pas vécu, pas vécu.
j'ai pas vécu, j'ai pas vécu.
Dans ma cuisse, j'ai planté une lame rien que pour sentir des mains de femme. Tout est dit là-dedans, effectivement. Allez, 5 minutes encore, 6 minutes même, il nous en reste.
Non, je voulais faire une petite annonce parce que finalement j'ai mon ami Gilles Maire qui reprend un petit peu les concerts, mais alors c'est pas à Paris là. Aujourd'hui c'était, on est le 26, c'est ça?
Oui, samedi 26.
Aujourd'hui le 26, il chante des très belles chansons françaises au 105 rue Nationale, 57 600 Forbach, donc à Forbach, voilà. À quel endroit les dingos envahissent l'Allemagne? C'est quoi la salle? C'est pas marqué sur le truc? La chanson à respirer? Ah mince! Eh ben, enfin, en tout cas, c'est au 105 rue Nationale. Voilà. Et puis sinon, le 27 août, c'est-à-dire demain, il chante. Alors, c'est, comment ça se prononce? À Reichsürsaal, Bildstock. Alors, c'est 66-299 Friedrichsthal. C'est où ça?
Bon. C'est quelque part.
66-299. Je ne sais pas quel.
66
Je ne sais pas. Le nom a une consonance germanique, mais j'ai peur de faire une gaffe en donnant une région. Alors je préfère m'abstenir.
Voilà. C'est tout. Mais c'est des chansons dont il est l'auteur et compositeur. Avec les jetés de l'encre.
Un petit texte?
Oui. Oui. Alors.
En 3 minutes.
Peut-être, ça risque d'être tout juste. Daniel Gélin a choisi un poème d'Audiberti, Création. L'inavouable signe de la création enchevêtre la ligne de la conception à l'obscure matière de la fécondité. L'époque humanitaire s'apprête à débuter. Regarde, enfant, regarde ce qui n'est pas encore. Parlez, qui s'y hasarde? Aristophane dort. La salive velue atteint le monde vert où lente se dilue l'ardeur de Lucifer. La langue s'élabore parmi les moucherons. Déjà la corrobore ce que nous nommerons, tandis que telle éponge couve, rêve lactée, Michel-Ange qui songe dans sa futurité. La lave ensemencée appelle le contour, la possible pensée flotte dans l'air trop lourd. L'étincelle de Dante énerve le moment, la bête de la plante s'arrache, adieu maman. Les petits du reptile serpentent dans l'humeur, nul d'entre eux n'est utile, un qui manque, tout meurt. L'inflexible formule des êtres et du temps prévoit que s'accumule dans les premiers étangs le nombre de couleuvres requis pour qu'à présent vipèrent dans nos œuvres des monstres. Cherchez-en. Au-dessus de la palme monte comme une mer la terreur que ne calme l'approche de Wagner. La forêt profonde, auberge à moustiques, dans la main du singe admire 5 doigts. Les crayons qu'il faut aux mathématiques par paquets épais campent dans le bois. Le lézard écrit le secret de vivre, mais sous l'acajou languit le savoir. Chaque papillon vole, étrange livre, où sont peints des yeux peu faits pour y voir. La forêt profonde abonde d'attendre dans le vrac précis du sérum touffu, celui qui viendra pour voir, pour entendre, et pour que tout soit si tôt que lui fut. Claque le tronc mort, le jacquard réclame, pleuvent les guenons rousses. Tout à coup, la brousse se cambre et l'azur entame, luisant l'émeraude immonde qui bout. Un paquebot gigantesque, blanc comme un mont blanc de sel, dont la pyramide presque définit l'universel, manoir ambulant qui porte le signal, terrible, impair, d'une race la plus forte, avide d'or et de fer, lourde de tonnes de tomes, miroitant de compteurs qui traquèrent les atomes jusque dans l'os des docteurs, dans les poils du mato grosse, pénètre, poignard pascal, fondant le buisson féroce et les velours tropicales. Puis, sous l'épineuse écume du brasier mal refroidi,
qui d'un seul bloc se rallume, le navire se perdit, tel un brouillard qui voyage vers le fatal entonnoir, tel, entre tous, un feuillage où vole le butoir noir. Mais des luttes et des transes de nos instants tourmentés, multitude de souffrances, fourmillantes voluptés, quelque part, dans quelque espace, le film reste cru, frais, vif, et parfois se le repasse le Seigneur méditatif. Donc, poème extrait du recueil Ange aux entrailles, édition Gallimard.
Merci.
Voilà, pile poil.
T'as bien capté, Bulma, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire.
Dans quelques instants, une rediffusion de Bulle Noire avec comme invité Christophe Beer. Et pendant ce temps-là, on en profite pour féliciter Michel qui réussit à annoncer des spectacles qui ont lieu en Allemagne, outre-Rhin. Ça, c'est pour ceux qui nous captent sur Internet.
De calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Édité chez Jean-Jacques Pauvert en 1960. Jean-Jacques Pauvert, éditeur, 8 rue de Nesle, Paris 6e. Dictionnaire des trucs, les faux, les fraudes, les trucages. Composé par Jean-Louis Chardan. Vers 1900 et jusqu'aux environs de 1930, un certain nombre de dompteuses travaillaient aussi en force leurs bêtes. Mais le succès de leurs numéros résidait surtout dans leurs costumes. Corsets de cuir, bottes lacées et vernies, cravaches, culottes collantes. Un public de masochistes et de fétichistes se disputait les meilleures places pour voir ces belles manier fouet et fourche.
Quel meilleur extrait aurait-on pu trouver que celui-ci pour introduire cette émission avec Christophe Beer autour de, d'une part d'un ouvrage intitulé L'obsession du Mato Grosso aux éditions du Cendre et également deux romans Femélisée et La chaîne fatale. Ça, tu vas nous raconter l'histoire d'ailleurs, parce que mais l'un ne va pas sans l'autre d'ailleurs. Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphane, et merci pour cette invitation.
Alors, commençons par L'obsession du Mato Grosso, qui est pas un essai, mais un essai nostalgico.